Bienvenue au balado de Book and You, avec des invités venant du monde de la littérature québécoise. Aujourd'hui, on parle avec...
Bonjour, mon nom est Claudine Dumont. J'écris des romans que l'on qualifie de thriller psychologique. J'en suis à mon troisième et j'espère que vous allez passer un bon moment.
Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement dans la littérature?
En fait, je pense que sans m'en rendre compte, à force d'écrire des romans, mon intérêt, c'est un peu dessiné de lui-même. J'aurais pas pu dire au début de mon premier roman de « je vais écrire sur ça, puis c'est ça qui va me passionner ». Mais je pense que si on regarde pour l'instant les trois romans que j'ai écrits, je dirais que ce qui ressemble à être mon intérêt central, c'est la transformation de ce qu'on appelle finalement l'évolution psychologique du personnage, tout simplement. Cette espèce de possibilité de se refaire comme on le désire. Dans le premier, il y a ça. C'est comme on fait table rase et on dit « OK, reconstruis-toi à partir de ça ». Dans le troisième, c'est un peu tu t'es trompé quand tu t'es construit. Maintenant, refais table rase et reconstruis-toi à nouveau. Donc, je pense que c'est quelque chose qui doit m'habiter même à mon insu, puisque ça transparaît dans mon écriture, même si je le planifie pas.
Une des spécificités de ton écriture, de ton style que moi j'ai remarqué et que j'ai beaucoup apprécié, c'est que j'ai vraiment senti ce que tes protagonistes vivent, en fait, si on peut le dire, hein, si tu sais, les émotions, elles sont, on dirait, palpables. Donc, s'il y a dans l'anabiose, mais même dans l'intrusif, parce que le fait que la protagoniste ne peut pas dormir a aussi des impacts sur le corps. Donc, je le sens. Et comment tu travailles cette écriture, en fait, ces phrases et ces mots-là qui ont tellement un impact.
Quand je suis lectrice et que je réussis à vivre dans la réalité quelque chose qui est créé à partir de textes, de lignes noires sur du papier blanc et qui sont capables de provoquer chez moi toutes ces émotions, et ce ne sont pas juste des émotions que j'imagine. Je veux dire, moi, je suis une bonne lectrice, donc je pleure quand je lis, je ris, les personnages m'habitent. Je m'ennuie des personnages quand j'ai fini de lire. Pour moi, un auteur qui est très efficace dans ce sens-là et pourquoi je l'aime autant et pourquoi mon deuxième roman lui est un peu une levée de chapeau, c'est Stephen King. Quand j'ai fini Stephen King, ses personnages, on dirait qu'ils continuent à vivre avec moi. Puis des fois, j'ai le goût de retourner lire parce que je m'ennuie d'eux. Donc, c'est ce que je veux donner. Comme c'est quelque chose que moi, j'aime vivre, c'est ce que j'ai envie que mon lecteur puisse vivre avec moi. Et je me dis, pour arriver à créer ça chez le lecteur, il faut que la lecture englobe tous les sens. Donc, il faut que je réussisse à faire vivre non seulement cérébralement quand on comprend et on décode le texte, mais bien que ça habite partout dans le corps, donc dans toutes les sensations.
Penses-tu que c'est une question des phrases courtes et des répétitions? Parce que j'ai remarqué dans tes romans, c'est vraiment les mots vraiment bien choisis qui suivent à un bon rythme, puis c'est ça qui est venu me chercher.
À ce moment-là, pour moi, la syntaxe est au service de cet effet-là. Donc, si je veux réussir à atteindre le lecteur dans tous les niveaux, ben la syntaxe, elle vient me servir à ça aussi. Donc, les mots sont choisis pour être efficace. Donc, pour moi, l'efficacité, c'est quelque chose de très, très important. Et c'est ça sur quoi je travaille.
Parlons-nous un peu plus de, justement, ton premier roman. J'ai toujours eu du mal à le bien résumer parce que je voulais pas trop en dire. Parce que c'est vraiment une expérience, il faut le découvrir en le lisant. Donc, peut-être as-tu une meilleure façon de résumer ce roman?
quand on a parlé de ce roman-là, au début, c'était très difficile de pas gâcher les points importants parce que, justement, on veut pas en donner trop au lecteur, on veut qu'il se retrouve happé dans cette histoire. Donc, ce que je dis généralement, c'est une jeune femme qui se fait enlever elle se retrouve dans une pièce complètement vide, sauf pour un matelas au sol. Elle sait pas pourquoi elle est là, et il y a personne qui vient lui expliquer, et ça part de là.
Sur les premières pages, on a tout de suite l'impression qu'elle a un peu perdu sa joie de vivre. Il n'y a pas de chum, pas d'animaux domestiques, pas d'hobby, il n'y a rien. Comment Emma est venue chez toi?
L'inspiration est venue, en fait, pendant que je lisais un autre roman. J'étais en train de lire A Million Little Pieces de James Frey, qui est l'histoire d'un alcoolique qui se retrouve pour la 25e fois en centre de désintoxication. Et quand il est devant l'édifice, l'hôpital qui va l'accueillir pour essayer de le remettre sur la bonne voie, il se dit « J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne et que je vais pouvoir en faire une vie, finalement. » Et moi, je lisais ça, puis je me disais « Je connais tellement de gens qui devraient aller dans des cliniques comme ça pour refaire une vie, même s'ils sont pas alcooliques ou dépendants, juste parce que on a souvent l'impression qu'ils perdent leur vie un petit peu à rien faire de signifiant. Sans aucune échelle de valeur, là, pas sur mon échelle à moi ou quoi que ce soit, juste, on dirait que des fois, la vie, elle est prise un peu pour acquis, comme si elle allait être éternelle, puis on fait rien avec. Donc, pour moi, c'était ça le point déclencheur de Anabiose. C'est un peu ça comment Emma est venue. Donc, de dire, OK, elle perd sa vie lui file entre les doigts, elle n'a pas de signifiance, elle est accrochée à rien, elle ne fait que passer le temps. Donc, comment est-ce qu'on fait pour sortir de là? Qu'est-ce qu'on fait pour sortir de là? C'est un petit peu l'intrusion du fantastique dans la réalité, là. Fantastique dans le sens où Freud l'entendait, là, l'inquiétante étrangeté qui vient faire imploser la situation à laquelle on est habitué. C'est un peu sur ça que j'ai construit le reste de l'histoire.
Les deux protagonistes, donc d'Anabiose et de l'intrusif, partagent en fait pas pouvoir dormir, mais bien sûr, dans l'intrusif, ça se passe complètement sur un autre degré ou échelle. Peux-tu me parler de Camille, donc la protagoniste de l'intrusif?
Oui, en fait, le fait qu'elle ne dort pas, c'était simplement pour réussir à trouver quelque chose qui pouvait témoigner du... Parce que quand je commence à écrire, j'ai toujours une question qui dirige mon écriture. Je suis pas un auteur qui va planifier très, très précisément le roman en entier. J'ai quelques scènes que je sais que je veux écrire, je sais sur quoi je veux finir, mais ça part d'une question et la question permet de pas trop m'égarer, de pas trop me perdre dans mon écriture. Et pour Camille, l'intrusive, je me disais, qu'est-ce qui arrive si on construit notre personnalité sur une mauvaise interprétation de qui on est? Donc, on fait tous nos choix, toute notre vie basée sur quelque chose qu'on pense être et qu'on ne revise pas, donc qu'on n'est pas ou qu'on n'est plus. Et pour moi, la première chose, ma première réponse, c'est que le corps va réagir. Le corps va dire non, ça fonctionne pas, t'es pas à la bonne place, je t'envoie des signaux d'alarme, si t'écoutes pas, j'arrête de fonctionner. Donc pour moi, c'est ce qui se passe, c'est très psychanalytique comme interprétation, mais c'est dans ça que j'ai été formée quand j'ai étudié la littérature, donc c'est ce qui me parle, c'est beaucoup vis-à-vis de la psychanalyse que j'arrive à interpréter ou percevoir le mental humain. Donc, dans l'histoire, le fait qu'elle ne dort pas, c'est là que j'ai choisi d'interpréter l'abdication du corps. Et pourquoi l'insomnie? Ben, je me disais, je pense que c'est quelque chose qui va me permettre de rejoindre beaucoup de lecteurs. Parce qu'on me dit des fois que mes personnages principaux, donc mes jeunes femmes généralement qui prennent la parole, des fois sont antipathiques. Les gens ont de la misère à avoir de l'empathie pour... Et là, je me dis, ben, je vais essayer au moins de faire en sorte qu'on ait un peu d'empathie pour Camille, parce qu'elle est difficile à aimer, cette femme qui est très, très en contrôle et qui ne crée pas beaucoup de liens, à part avec sa nièce et son frère. Donc, je me disais, si le lecteur peut reconnaître quelque chose qu'il vit, ben ça va aider. T'sais. Puis effectivement, ça revient souvent quand les gens me parlent du roman. « Oh mon Dieu, aussi, j'ai de la misère à dormir » ou « Ah, oh, je comprends donc c'est quoi l'insomnie » puis « Ah, oh, je me reconnais dans les nuits » ou ça. Donc, c'était un peu ce choix-là, mais en même temps, ça fonctionnait très bien puisque l'autre élément déclencheur de ce roman-là, c'était la machine de rêve qui m'est venue pendant un voyage photo où je regardais les paysages, puis je me disais, j'aimerais tellement qu'on puisse voir ce que je vois dans ma tête parce que j'ai beau être très talentueuse en photographie, je suis jamais capable d'amener exactement l'impression du paysage. L'outil me limite, alors que si on pouvait voir ce qu'il y avait dans ma tête, je pourrais partager. Et évidemment, ben, de là... Et si je pouvais partager ce que j'imagine? Et si je pouvais partager ce que je rêve? Et c'est ces deux entrées-là, finalement, qui m'ont donné le go pour l'écriture de l'intrusive.
J'adore ton style, comment tu fais donc avancer et sentir les émotions et tout ça. Et dans l'intrusive, j'appréciais beaucoup ton timing. À quel moment tu partageais une information qui faisait avancer l'histoire. Et il y a tellement de couches dans ce roman-là, comme peut-être une oignon, on va peler les couches puis on arrive aux sources de ce qui a provoqué en fait l'insomnie chez Camille. C'est quoi la motivation pour Camille d'aller voir Gabriel?
Dans la première version du roman, elle va voir Gabriel pour son frère, puis pour elle, pour pas mourir, mais en même temps, on se demande vraiment si elle tient à la vie parce que elle est tellement retirée, tellement comme une tour d'ivoire que qu'est-ce que serait sa vraie motivation, surtout qu'elle perçoit Gabriel comme étant très menaçant puisque lui semble être capable de franchir ses murs. Et c'est dans la réécriture que j'ai amené Jeanne. Elle n'existait pas, Jeanne, dans la première version du roman. J'ai dû la mettre en place pour, justement, que ça soit plus crédible que Camille passe par-dessus ses réticences pour régler son problème si elle veut revoir Jeanne. Et quand j'ai placé Jeanne, tout le reste s'est relié et en fait que l'histoire devenait beaucoup plus solide et mieux tissée. Juste avec ce petit personnage-là.
Il y a toujours cette autre personne qui arrive sans qu'on le cherche vraiment, mais elle est là, surtout dans Anabiose et l'intrusif. Donc, je me suis demandé si tes romans ne seront pas un plaidoyer, en fait, pour la vie avec les autres, pour s'intéresser aux autres, et que si on est deux, ça va être plus facile de continuer à vivre ou de vivre?
Pas nécessairement la vie à deux, c'est pas la vie de couple que je suggère, mais plutôt le partage. Donc oui, je pense que la vie, est-ce qu'on peut vraiment vivre toute seule, surtout dans la société où on est présentement, où on s'isole de plus en plus, où on est disjoint, non? On crée de moins en moins de liens. Je pense que oui, je pense que pour moi, c'est peut-être... sans que j'en sois complètement consciente, là, un regard critique sur le fait que de vivre isolé et de choisir de tout le temps être seul, on passe à côté une des expériences les plus enrichissantes de la vie, finalement, du parcours humain. Là. Je pense pas que c'est une vie pleinement vécue si on la vit complètement seule.
C'était le balado de Book & You avec Jennifer Demeure et Claudine Dumont. Nous remercions la Délégation générale du Québec en Allemagne et le Deutsche Canadische Gesellschaft e.V.